revue de presse, Claude, on parle d'un père ce matin.
Il s'appelle Philippe Chauvin. Il va en justice pour son fils Nicolas, mort à 18 ans en décembre dernier après avoir été percuté par deux adversaires sur un terrain de rugby. Philippe Chauvin porte plainte contre X pour homicide involontaire. Il n'a pas d'autre solution, dit-il à l'équipe, parce que la thèse de l'accident a recouvert le drame, parce que la police a classé l'enquête, parce que les joueurs qui ont renversé Nicolas non seulement n'ont pas été sanctionnés, mais ne lui ont jamais envoyé ne serait-ce qu'un message pour dire leur regret, parce qu'on a reproché à Nicolas de s'être baissé au moment du choc. On l'a voulu peut-être un peu coupable. Alors Philippe Chauvin insiste, son garçon d'1m95 ne devait pas mourir ainsi. Le lendemain de l'enterrement de son fils, imaginez, Philippe a visionné la vidéo de l'action. On voit deux joueurs arriver à grande vitesse sur un joueur qui se saisit du ballon quasiment à l'arrêt. On voit une double collision parce qu'il ne s'agit pas de plaquage. Pour un plaquage, il y a des règles. Les deux joueurs viennent dans l'idée de la destruction. Ils ne ralentissent pas. L'un d'eux fracasse Nicolas avec un coup d'épaule à la tête comme s'il s'agissait d'enfoncer une porte. Ainsi parle un père de la mort de son fils. Et ces mots qu'il donne à l'équipe, imaginez-le, il les a répétés si souvent pour que le rugby change. Pour lui, dit-il, c'est terminé. Avec ma femme, on payera toute notre vie. Dans la presse ce matin, pas seulement dans l'équipe, on nous parle de sport, de match et de corps vivant. Dans Midi Libre, deux footballeurs s'amusent fraternellement avant le derby Nîmes-Montpellier. L'autre fois, on vous a mis des coups, on vous les a rendus. Il rit, la vie a repris. On parle aussi d'un fils ce matin, Édouard Bergeon, qui lui a fait un film nommé Au nom de la terre, en fait au nom de son père suicidé de dette, qui en a fini en avalant des pesticides. Il était paysan. Le père est mort dans les bras de son garçon en s'excusant. En fait, il ne voulait pas mourir, a raconté Édouard Bergeon au Monde. Nous avons reçu ici, la semaine dernière, Édouard Bergeon avec Guillaume Canet, qui joue son père Christian. Mais ce matin, les paysans fourbus font la une de Sud-Ouest, du Dauphiné, du Télégramme, de l'Est éclair, et on me parle d'autres deuils. Sud-Ouest me dit Sylvie, dont les Poutieries s'est tué en 2006, il était fatigué et un matin s'est acharné à réparer un rouleur. Il en a eu assez. Le Dauphiné et l'Est éclair sur son site racontent Camille qui aimait Augustin, ils élevaient des cochons. Les banques les ont lâchés et la deuxième tentative d'Augustin était la bonne. Le lendemain de sa mort, un prêt arrivait sur le compte bancaire de la ferme. Un député avait débloqué le dossier, mais il était trop tard. « Je ne méritais pas d'être veuve à 24 ans », dit Camille. Elle publie un livre « Tu m'as laissée vivante » avec un journaliste, Antoine Jandet, qui dirige un site incontournable sur l'agriculture, WikiAgri, où il se demande ce matin si un film peut faire changer le monde agricole. Dimanche prochain, les recettes de « Au nom de la terre » seront ponctionnées d'1 euro par place à l'intention d'une association « Solidarité Paysan » dont me parle Centre Presse, association qui reçoit les appels de paysans en pleurs, mais qui ne pleurent pas.
Et l'on parle aussi de la souffrance au travail ce matin.
Et c'est encore un film et un acteur qui porte une douleur comme s'il fallait un décalage par l'art pour supporter le monde. Voilà donc Olivier Gourmet, d'une infinie justesse, dit le Parisien, dans un des meilleurs films de l'année, insistent les échos, Ceux qui travaillent. L'histoire d'un homme devenu une bête tout entier à sa tâche, cadre supérieur dans une entreprise de fret maritime, qui apprend qu'un clandestin atteint de fortes fièvres s'est glissé à bord d'un cargo. Si le bateau est mis à 40 ans quarantaine, les pertes seront colossales. Et si passait le clandestin par-dessus bord. Ce n'est qu'une fiction, mais elle raconte, me disent les échos, la perte du monde. Les échos racontent ce cargo qui n'est qu'un point qui se déplace sur l'écran d'ordinateur d'un cadre qui porte la mort dans son regard. On se sent encerclé. On se suicide en Amérique aussi, où l'économie pourtant tourne, dit Philosophie Magazine, mais il y a trop d'alcool, trop de médicaments, plus de sens. Et Philosophie Magazine cite Durkheim, l'état dans lequel se trouve une société fait des proies pour le suicide. La Charente libre, chez nous, fait sa une sur la déprime des managers, cadres assaillis de mails et de responsabilités de journées sans fin. Libération, raconte un employé de Leroy Merlin, harcelé par sa direction qui ne supportait pas qu'il ne joue pas avec elle contre les syndicats. Il a voulu mourir lui aussi. Existe-t-on seulement ? Le 1, cette semaine, raconte les prolétaires du web, ce qu'on ne voit pas, loin des cols blancs, des investisseurs, des concepteurs d'algorithmes, de la noblesse du code, non, des millions de personnes qui ont été chassées des emplois classiques pour devenir les subordonnés des machines, payées à la micro-tâche au clic qui entraîne les intelligences artificielles. Ils dessinent par exemple des carreaux autour de tomates pour entraîner une application de recommandations nutritionnelles. Ils sont dans l'obscurité pour que nous mangions sainement.
Et il reste, pour espérer, Claude, des odeurs.
Dans la revue Zadig, revue frère du 1, dont le numéro de rentrée épais parle du travail. Le travail, pourquoi faire ? Mais ce sérieux s'illumine de nos paysages de France. Jean-Paul Kaufmann, journaliste et écrivain, se souvient de Cornu en Bretagne, sa ville d'enfance, où ses parents étaient boulangers et pâtissiers. Le sucre et la chantilly sauvèrent son père, raconte Kaufmann, dans une France d'après-guerre qui avait besoin de douceur. Un gâteau au caramel s'appelait Salambo. Jean-Paul en découvrit Flaubert et la douceur des mots. La laine de mon village reste un secret bien gardé, un mélange de crottin de cheval et de bourrasque mouillé et de suie, écrit-il. Il se souvient aussi de l'odeur du pain chaud et du fumet de bois qui pétille dans le four. On peut donc aimer encore dans nos campagnes et aussi au présent. Dans Lyon républicaine, j'en termine, je lis une histoire au goût d'espérance. Des vignerons d'Irancy accueillent pour les vendanges 6 prisonniers, 6 détenus d'Auxerre et de Joux-la-Ville qui réapprennent dans les ceps le mot de liberté. Robert et Paola sont comme des enfants. J'ai passé des mois dans ma cellule à regarder la télé. Là, quand je rentre, c'est elle qui me regarde, dit-il. L'odeur des vignes, il ne l'oubliera pas.
Claude Askolovitch, merci.